Hamid. Je suis au pied de la tour Pleyel, là. On se retrouve quoi, devant le centre scolaire? Tu m'entends? Allô? Allô? Je t'entends plus, là. Ouais, c'est l'école à un seul France, hein, c'est ça? Bon, je t'entends pas, là. Ok, j'arrive.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Ah oui, le Carrefour Pleyel, c'était mieux avant, quand on y fabriquait des pianos à queue, et surtout avant la construction de l'autoroute A86 qui a séparé le quartier Pleyel de Saint-Denis-Ville. Un super périphérique pensé dans les années 60, année folle du tout bagnole. Et les Jeux Olympiques aussi, c'était certainement mieux avant. Avant la présidence de Juan Antonio Samaranch, affairiste et idolâtre du général Franco, qui les a déplacés, les Jeux Olympiques, de l'Olympe vers Wall Street. Monsieur X nous en dira deux mots. Pour les JO 2024 de Paris, ce sont plutôt les bétonneurs et le CAC 40 qui sont à la fête. Mais les habitants de Seine-Saint-Denis se sont organisés en comité citoyen de vigilance pour limiter les dégâts et faire en sorte que la charte et philosophie olympique soient respectées par le CIO, Comité International Olympique.
C'est
bien.
Bien.
Tôt.
Demain.
Alors, je m'appelle donc Widir Hamid. Parents d'élèves dans le groupe scolaire Plaine Alatole France à Saint-Denis et membre du conseil départemental FCPE de la Seine-Saint-Denis.
Et là, c'est la sortie de l'école là ou du centre?
Non, c'est la sortie du centre de loisirs.
Ouais, c'est là, ouais, c'est ça.
En fait, là, c'est l'entrée principale du groupe scolaire. Nous avons le centre de loisirs qui est au milieu en fait des deux écoles. Alors, on a l'école maternelle Ignace Pleyel et l'école élémentaire Alatole France.
Alors, ici, Hamid, on est à Saint-Denis. On est adossé à la 86 hein, qui traverse la ville de Saint-Denis.
On est à 250 mètres de la 86. Au même titre que la 1, il faut savoir que en fait, l'autoroute A1 a été construite en 1968. La 86 a été, ce tronçon en tout cas, juste derrière l'école, a été finalisé dans les années 93, je crois, en 93, ainsi que le demi-échangeur existant. Il faut juste savoir que cet échangeur existant, il n'est pas complet. Il n'a justement pas été complété parce qu'il y a des soucis sanitaires à l'époque, où les gens se sont rebellés.
Déjà,
tout à fait. Et en fait, les élus de l'époque, avec les habitants de l'époque, avaient réussi à stopper cette volonté de la direction des routes d'Île-de-France, je sais pas comment elle s'appelait avant, de fabriquer l'échangeur complet. Mais il faut juste savoir que ce projet, en fait, a été conçu dès la livraison du tronçon.
Alors ce centre quand même scolaire, il a l'air d'être assez récent, non?
Il n'est pas récent. Non, c'est une extension. D'ailleurs, le vieux bâtiment, il est tel qu'il est. Hein. La première pierre, je pense, elle daterait, je crois, de 1896.
D'accord.
Si ma mémoire est bonne, dans les archives de Saint-Denis. Donc c'est un groupe scolaire qui date de très très... C'est une école. Avant, c'était pas un groupe scolaire, c'est une école.
Ouais.
Et dont, en février 2013, il y a une extension de 7 millions d'euros qui a agrandi. Enfin, nous, on l'appelle le groupe scolaire. C'est un groupe scolaire qui regroupe deux écoles, maternelle et élémentaire. Et cette extension, elle a été livrée en 2013. Il faut juste savoir que ce projet de complétude d'échangeurs, il était dans les cartons du département de la ville et de Pleine Commune avant l'extension. Donc, comprenez bien que nos élus pensaient déjà à enclaver ces enfants dans cette circulation dangereuse. Alors que ce qu'il aurait mieux valu faire, c'était de se dire, bon, on ne fait pas l'extension, on détruit l'école et on la remet ailleurs, sachant qu'on a prévu de construire un échangeur complet. Les JO arrivent avec leur financement, et puis, voilà. Et là, en fait, ils ont réussi à avoir le financement d'un projet qui dormait dans les cartons depuis des lustres. Donc, on voit bien que le projet n'est pas fabriqué par les JO. C'est pour ça qu'on dit, nous, parents FCPE, nous ne sommes pas contre les JO. Et je le soutiens, je le dis. Je ne suis pas contre l'esprit des JO, mais je suis contre la manière dont se font les projets qui préparent cet événement sportif. Nous, notre projet, c'était quoi? C'était 1,2 hectare de végétation, jardin public, à côté de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un tampon, plus aucune circulation à moins de 120 mètres. Et ces 120 mètres, il y aura 1,2 hectare de jardin. Et ça, c'est réalisable, c'est faisable. Il faut juste une volonté politique, en fait, pour le faire. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que l'économie, elle prime sur la santé. Et elle prime sur la santé d'enfants. Voilà.
Ouais, on arrive du côté de l'école maternelle. Alors, on voit la tour, voilà, l'ancienne tour Pleyel.
Oui.
Qui est en train d'être rénové, quoi. Hein,
C'est un hôtel 4 et 5 étoiles avec une piscine tout là-haut.
Ah ouais.
Et ben à Pleyel, on aura un bâtiment, donc une tour de très très grande hauteur avec une piscine tout là-haut, donc un 5 étoiles.
Pendant que les clients de l'hôtel 5 étoiles pourront se baigner là-haut, là, tout en haut. Hein.
Tout en haut. Ouais.
Ici, les enfants, ils vont continuer à s'asphyxier, quoi.
Non, mais là, il faut juste savoir qu'on est à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a 1800 pages de dossiers qui sont partis à la Cour européenne. On espère que la Cour instruira le dossier, c'est pas sûr. Donc on fait ce qu'on peut pour expliquer que ce problème n'est pas local, que ce problème doit être pris vraiment à bras-le-corps par une institution internationale. Mmh. Et du coup, dans les projets que nous essayons de pousser depuis 9 mois, le projet de sanctuarisation des écoles par rapport à ce qui se passe ici à Pleyel. Concrètement, ce projet de loi, il est structuré sur une idée, mais vraiment simple. On ne construira plus d'établissements scolaires. Quand je dis établissements scolaires, c'est primaire et secondaire, donc à côté d'un axe à fort trafic. Et inversement, il faut que ça soit gravé dans le marbre. Il faut que ça soit une loi qu'on pourra utiliser justement pour aider nos enfants.
Il y a un petit panneau là qui a été accroché avec un dessin d'enfant. C'est des petits nuages, des petites étoiles. L'école Anatole France. Le bâtiment le plus ancien date du 19e siècle. Il y avait autrefois une école pour les garçons et une école pour les filles. L'école a été agrandie avec un nouveau bâtiment à la façade en bois. Et c'est signé Léo, Bilal, Ethan et Amara. Et effectivement, il y a une déco en mode palissade. Avec des branches, quoi, des bouts de bois fixés sur la façade.
Donc moi, je suis Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. Alors l'association Respire, c'est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Elle existe depuis 10 ans et donc elle se positionne pour aider à la prise de conscience sur les sujets de pollution de l'air, notamment auprès du grand public, mais aussi auprès des pouvoirs publics.
Alors Tony, vous vous êtes penché justement sur ce cas particulier hein, de l'école Pleyel, hein, de l'école, enfin du groupe scolaire, quoi.
Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir déjà, d'une, c'est que les enfants sont les plus vulnérables à la pollution de l'air. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des organismes qui sont encore en cours de formation, parce qu'ils respirent plus vite, donc ils aspirent plus de polluants. Et donc les conséquences sanitaires, telles que l'asthme, tels que les problèmes cardiovasculaires, tels que les problèmes aussi sur le cerveau, vont être en fait aggravés chez les enfants. Or, ce qu'on remarque à l'école Pleyel, et c'est ce qu'on a vu notamment nous avec les capteurs qu'on a apposés à côté, c'est que on est déjà sur une situation critique. On est sur des niveaux de concentration en particules fines qui sont déjà jusqu'à 5 fois au-dessus des recommandations de l'OMS. Donc la situation est critique et en même temps, à côté, on construit un échangeur autoroutier. Donc on va emprisonner 600 enfants entre deux bretelles d'autoroute, alors qu'ils ont déjà un air qui est très pollué. Donc ça n'a aucun sens, on va aggraver la situation. Donc c'est pour ça que ce projet est inopportun et dangereux pour la santé publique des enfants. Alors, sur le cas particulier de Pleyel, aujourd'hui, il y a deux solutions possibles. Soit on arrête le projet dans sa forme actuelle, et donc dans ce cas, on se dit que cet échangeur, on va le construire avec peut-être un autre tracé qui va sauvegarder, on va dire, la santé des enfants. Soit on déplace l'école, parce qu'on ne peut pas laisser des enfants emprisonnés par un échangeur autoroutier. Aujourd'hui, on a le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui dit que déplacer l'école, ça coûte 50 millions d'euros. Ce qu'on a envie de lui dire chez Respire, c'est si jamais ça coûte de déplacer une école parce que les JO... nuisent à la santé des enfants, dans ce cas, demandez au JO, au comité d'organisation, de vous indemniser. Voilà. Comme ça se fait quand il y a des expropriations pour construire des installations. Dans ce cas, c'est à l'organisation des Jeux Olympiques de payer pour protéger la santé des enfants.
Surprise ! Monsieur X a choisi cette semaine de me parler de sport. Cependant, mon étonnement a été de courte durée. Il s'est en effet proposé d'ouvrir un dossier bien sulfureux, celui d'un homme qui, malgré un passé politique ô combien contestable, a régné pendant 20 ans sur le sport international, imposé des mutations irréversibles, cet homme, c'est Juan Antonio Samaranch, l'ancien patron du Comité international olympique. Dans les milieux sportifs français, on l'avait surnommé Samaranch.
L'un de vos confrères de Télérama l'a appelé le Seigneur des Anneaux, Seigneur S-A-I-G-N-E-R, qui accuse Samaranch d'avoir massacré les Jeux Olympiques. En fait, j'y reviendrai. Deuxième observation. Dans sa vie, Samaranch avait une date fétiche, le 17 juillet.
Quelle signification, voilà ?
C'est un 17 juillet que le général Franco avait lancé son mouvement de rébellion contre la République espagnole. Ouais.
Le 17 juillet 36. Et ça veut dire que sa vie durant, Samaranch a été fidèle au franquisme.
Et de mon point de vue, on ne peut que le déplorer. Surtout quand on pense à l'idéal olympique qui prêche la paix et la fraternité.
A-t-il adhéré par opportunisme ou bien a-t-il été un franquiste zélé ?
Bien sûr, après la disparition de Franco et surtout son élection à la tête du CIO, il essaiera de minorer son rôle en affirmant qu'il n'a été au fond qu'un exécutant.
Ouais, ça a été aussi la défense de tous les collaborateurs des régimes fascistes.
Mais après son départ du CIO en 2001, il reconnaîtra toutefois qu'il a toujours été fidèle à Franco, dont il continue, comme par le passé, à penser le plus grand bien. Mais il faut dire, pour expliquer cette ascension fulgurante, que Samaranch s'est trouvé un allié de poids. L'homme le plus influent dans le monde du sport.
Et c'est qui ça ?
Horst Dassler, le patron d'Adidas. C'est lui qui, dans l'ombre, tire les ficelles. Je vous propose de voir comment le CIO va évoluer sous la présidence de Samaranch.
Je vous écoute.
Eh bien, disons-le tout de suite, sous ses 20 ans de règne, le CIO connaît une véritable révolution. Samaranch sera le président qui permettra à l'argent de faire une entrée en force dans l'olympisme. Les Jeux Olympiques deviennent une machine à faire de l'argent. Toujours plus d'argent.
Mais est-ce que la charte olympique, là, établie par Pierre de Coubertin, permettait cette commercialisation ?
Absolument pas. Il était même spécifié que l'emploi du drapeau, du symbole, de la flamme et de la devise olympique ne pouvait donner lieu à des opérations de nature commerciale. Samaranch a fait ajouter 4 mots à cet article, sauf pour le CIO.
C'est bien. Bien. Demain. Antoine Chao.
Et là, Cécile, j'intraque, on quitte la porte de Paris.
Sur France Inter.
Pour aller vers le Stade de France ou le quartier Pleyel. Il y a la A1, on va passer dessous, l'autoroute A1.
Ah oui, là on est à la porte de Paris, donc là c'est une sorte d'épicentre parce qu'on d'ici on voit la tour Pleyel, on voit le Stade de France évidemment, et les grues du futur centre aquatique olympique qui est en construction juste en face du Stade de France. Alors c'était là qu'étaient censées avoir lieu toutes les épreuves olympiques. Finalement l'adaptation va déménager parce que au fur et à mesure, les épreuves déménagent, c'est-à-dire qu'en fait, on va garder les grosses infrastructures lourdes, type village olympique, etc. Mais en fait, les épreuves, il en reste de moins en moins en Seine-Saint-Denis. Donc évidemment, il y a un peu l'impression qu'il a été vendu, que la Seine-Saint-Denis était un des lieux des Jeux Olympiques. Et finalement, il reste, moi ce que je dis souvent, un peu l'arrière-boutique des Jeux Olympiques. Tout ce qui était nécessaire pour avoir du foncier, il se trouve ici. Mais en réalité, bon voilà, par exemple, la cérémonie d'ouverture n'aura même pas lieu au Stade de France parce qu'il faut quelque chose de glamour sur la scène. Donc on considère qu'évidemment le 93 n'est pas assez glamour pour la cérémonie d'ouverture.
Oh, quand même, là, on passe sous la A1. Hein.
Ça manque un peu de glamour, j'avoue. Mais c'est ça notre problème, hein, c'est qu'on a, nous, on a quand même déjà le sentiment que les Jeux Olympiques, bon, on pense qu'on en veut, mais auraient dû être un effet de réparation, en fait, notamment écologique. On regarde l'injustice écologique qui est qu'on a beaucoup d'infrastructures lourdes et polluantes, à savoir notamment l'autoroute A86 et l'autoroute A1. Alors je suis Cécile Gintrac, je suis membre du comité de vigilance depuis sa création en 2017. En fait, quand les JO ont été attribués à Paris, et donc indirectement aussi à Saint-Denis, on a créé sur Saint-Denis avec des personnes d'associations, des gens assez mobilisés à Saint-Denis, le comité de vigilance JO. Pour suivre en fait ce qui allait se passer, parce que pour nous c'était un grand projet, c'était assez imposant, mais on n'avait pas vraiment les détails, on se rendait pas trop compte de ce qui allait se passer, et on avait bien le sentiment qu'il y aurait des soucis, et ça n'a pas manqué.
C'est des canards, c'est quoi ça
C'est des oies.
C'est des oies, ouais.
sur le canal de Saint-Denis.
Alors, on ne sait pas s'opposer au sport et aux Jeux Olympiques, en tout cas les Jeux Olympiques dans l'idée ou dans la philosophie de départ, quoi. Alors aujourd'hui, on sait ce que sont devenus les Jeux Olympiques, notamment après le mandat de Antonio Saramanche, qui a complètement dévoyé l'esprit olympique.
En tout cas, nous, dans le comité de vigilance Saint-Denis, on n'est pas parti du pour ou contre les JO. Enfin bon, on constate effectivement au fur et à mesure que les promesses énoncées ne correspondent pas à la réalité. Mais en fait, on ne s'est pas tellement positionné pour ou contre l'événement. On s'est surtout demandé si l'héritage qui avait été annoncé serait soit à la hauteur ou s'il allait correspondre dans les faits à la promesse d'excellence environnementale. Bon, là, plus on avance, plus on se rend compte qu'on s'écarte de l'héritage promis. C'est-à-dire que on a des éléments de projet, mais nous, ce qu'on a dit au comité de vigilance depuis le début, c'est qu'avec tous ces projets JO, on a des travaux qui vont très très vite, mais par contre, il n'y a pas eu une pensée globale à l'échelle de la ville de ce qui pouvait améliorer la ville. Et nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire dans ce projet alternatif, d'essayer de proposer quelque chose qui, en fait, aille de Pleyel jusqu'à la Porte de Paris pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants. On avait demandé un forum public qui avait été accepté par le COJO dans un premier temps pour réunir tous les acteurs autour de la table, puisqu'il y a effectivement énormément d'acteurs. Et finalement, ce forum a été annulé au dernier moment, contre toute attente. 2 mois avant, on nous a dit « c'est pas possible ». Parce qu'évidemment, ils savaient bien que si on lançait l'idée de reprendre un projet, ce problème des délais des JO allait se poser. Et donc, si on avait voulu reprendre ensemble des choses, on aurait sans doute trouvé de très bonnes idées, mais elles n'auraient pas été applicables dans les temps à cause des JO.
Vous trouverez toutes les infos sur la page C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Merci à Hamid Ouidir, Tony Renucci, Cécile Gintrac et Patrick Penaud. Et on se retrouve dimanche prochain à l'antenne ou en podcast. Et je vous souhaite une belle semaine.